Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi, sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. Il y a Charles Magnin autour de la table, il y a l'économiste Pierre Rondeau, l'influenceuse et entrepreneuse Élise Goldfarb et le journaliste Fred Hermel. Dans un instant, on parle de ce nouveau menu McDo à 5€. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Eh bien, vous nous dites tout, bien sûr, au 32-16, 14h25. Que tu préfères? On va parler de foot. Tu préfères voir un match dans un bar ou à la télé? Dites-nous vos préférences. Et puis on aura également RMC Conso. On va parler de travaux de rénovation. Vous êtes nombreux à faire des travaux. Le problème, c'est que ça coûte très cher, notamment en raison de la hausse des prix liée au Moyen-Orient. Et on vous dira comment faire des économies et des affaires malgré ces hausses. Et puis on terminera avec les immanquables, Charles.
On parlera de la place des femmes en politique. La place des femmes en politique stagne, dénonce l'ONG Oxfam. Le taux de féminisation du pouvoir.
Surtout qu'Elisabeth Borne s'en va.
Oui, alors elle quitte la direction de Renaissance. Elle n'arrête pas sa carrière politique pour autant, mais on regardera le détail. On parlera aussi, tiens, de votre ego. Est-ce que vous encaissez bien les critiques, les retours sur votre travail notamment, ou sur votre personnalité?
Bien sûr, Charles.
Oui, bien sûr, Estelle. 59% des Français sont incapables d'entendre une vérité brute sur eux-mêmes, nous apprend un sondage. Et puis on parlera de Jenny Bastier, la journaliste conservatrice du Figaro, dont l'arrivée sur France 2 crée beaucoup de remous en interne. Je vous expliquerai tout ça à 14h40.
D'ailleurs, va-t-elle arriver?
Ah oui, c'est vrai qu'on en est au stade des communiqués. Ah bah oui. Ça allait être annoncé pour la rentrée. On verra.
RMC Estelle Midi.
14h06 sur RMC, on s'intéresse tout de suite dans Estelle Midi au lancement du jour. Et c'est celui d'un nouveau menu McDo à 5€. Ça s'appelle le menu McDeal et ça comprend un burger avec deux steaks ou deux filets de poulet, une petite frite, une petite boisson et un petit dessert. Autant dire que ce menu va faire un carton, notamment auprès des jeunes. Mais alors pourquoi Charles McDo casse ses prix? Ça marche bien McDo pourtant.
C'est pour répondre aux préoccupations des Français, dit McDo qui cite des sondages selon lesquels 61% des Français constatent une baisse de leur pouvoir d'achat, 81% ont renoncé à des moments de loisirs et de plaisir en famille. D'ailleurs, au-delà de ce menu McDeal, McDo baisse le prix de certaines recettes sur les menus best-of. Les menus best-of autour du McChicken, du Filet-O-Fish, du double cheese vont passer dans tous les restaurants à 7,50€ contre 9€ en moyenne aujourd'hui. McDo, qui, nous dit-on, s'engage sur ses prix jusqu'à au moins la fin de l'année et assure en fait ne pas rogner sur la qualité. Ce sera les mêmes ingrédients, la même qualité.
McDo, c'est Total en fait.
Oui, c'est sûr. Oui, McDo qui dit on va baisser surtout nos marges, les marges des restaurants pour assurer ces petits prix. Ces menus à petits prix qui sont déjà pratiqués par ses concurrents depuis 2023. Quick a lancé un menu carrément bon à 4,95€ avec un menu complet, hein, burger, frites, boisson, dessert. Burger King a des menus à 5€, tout comme le menu baptisé 5 balles chez KFC. Des menus toujours présentés comme anti-crise, anti-inflation, qui ciblent surtout les jeunes. Une façon aussi de résister à la concurrence des autres types de fast-food. Les kebabs, les tacos, les croûtes, les Master Poulets qui proposent désormais des formules complètes à moins de 10€.
Enfin, franchement, un burger, une petite frite, une boisson, un dessert à moins de 5€, effectivement, c'est difficilement battable et ça fait réfléchir quand même. Menu McDo à 5€, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Pierre Rondeau?
Alors, on peut le voir de deux manières différentes.
C'est un peu l'esprit de cette question.
Il y a du pour, il y a du contre,
et même de cette émission. Tu vois.
Non, mais si on est sérieux, dire que c'est une bonne chose parce que les Français n'ont plus de pouvoir d'achat, c'est acter une réalité. Et McDo s'en est adapté, il l'a révélé. Il y a une vraie problématique de pouvoir d'achat, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes. L'inflation qu'on a connue depuis les années 2020 fait qu'aujourd'hui, comme on n'a pas un rattrapage vis-à-vis des salaires, les gens ont moins d'argent. Ouais. Et comme ils ont moins d'argent, ils sont là à faire des choix, des arbitrages entre est-ce qu'on va aller ou pas au McDo, au restaurant. Le McDonald's, c'est à 15€. Si on a une famille, c'est à 60€. Donc, évidemment, il y a cette problématique qui t'a révélée. Donc, dire que c'est une bonne chose, c'est aussi acter que oui, la réalité, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Maintenant, le pendant inverse, c'est de considérer que si on va se tourner vers McDonald's, la malbouffe, alors qu'on a des problématiques d'obésité, on a des problématiques de sédentarité chez les jeunes, qu'on a des problématiques de coûts sur l'assurance sociale, l'assurance maladie, du fait de la sédentarité et de l'obésité, c'est pas en ayant un menu à 5€ qu'on va solutionner la chose et ces choses. Donc voilà, je suis un petit peu sceptique.
Mais vous allez le tenter ou pas?
Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait à l'époque le burger à 1€ chez McDonald's.
Mais bien sûr.
Le burger à 1€.
C'était pas le Big Mac.
Non, c'était un burger, c'était le pain, c'était pain, steak, pain. J'en prenais 10.
Quoi?
Ouais, j'en prenais 10, ouais.
Oh le 10 cochon
euros. 10 euros. Bam, 10 euros, j'étais refait.
10. Mais vous mangez pas les 10? Un glouton barbeau.
Ah si, j'étais un glouton. Ah, mais je vous montre des photos de moi quand j'étais étudiant. J'étais
oui,
un
je les ai vus, Pierre.
Et on va les épargner à ceux qui regardent la télé.
Voilà. Et depuis, vous avez donc changé votre alimentation et votre corps.
Je suis passé à 7.
Oui. Ah, quand même.
Bon, un petit 90 kilos, quand même. Il faut les tenir. Ouais. Hein.
Fred Hermel, est-ce que vous allez vous laisser tenter par ce menu à 5 euros? Ou est-ce que, quelque part, vous trouvez ça grave qu'on puisse avoir autant pour 5 euros? Il n'y a aucun restaurant qui peut s'aligner aujourd'hui avec ça, quoi.
Alors, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas mangé au McDo.
Ah ouais?
Ouais, je fais attention à moi. Au-dessus, hein, mon âge, l'hypertension.
Oui, enfin, une fois de temps en temps, ça n'a jamais tué personne.
Mais c'est dans les hamburgers, mais je l'ai fait moi-même. Donc,
d'accord.
Voilà. Après, mais rappelez-vous, McDo, moi, quand McDo est né, quand j'étais étudiant, ça ne coûtait pas cher. C'est-à-dire que McDo retrouve ses prix. À l'époque, c'était pas cher de manger au McDo.
Là, c'est plus de 30 francs. Hein.
Ben oui, c'est pour ça. Oui, à l'époque, c'était 10 francs.
Oui, non, mais il y a eu un peu d'inflation entre temps.
C'est vrai, c'est vrai.
Non, mais oui, on peut tout comparer à l'ancien franc.
Excusez-nous,
Charles. Voilà. Mais quand Estelle et moi nous étions étudiants, le McDo, c'était vraiment le resto pas cher. C'est le seul que je pouvais me payer, moi, en tant qu'étudiant. Je mangeais aux rues, au resto universitaire, tout le temps. Et quand il me restait 10 balles le week-end, et ben, j'allais le samedi, le vendredi midi, je me faisais un McDo avant de rentrer chez moi. Voilà, c'était comme ça. Parce que c'était pas cher. Donc finalement, il retrouve sa culture populaire à ce niveau-là. Après, moi, je vais pas applaudir parce que la junk food, la food, on appelle ça en français,
la malbouffe,
comment que la malbouffe soit une info, soit etc. Mais voilà, c'est triste, c'est quand même triste. C'est aujourd'hui, comme vous vous rendez compte, nous ici,
c'est pour abattre les enfants et les jeunes,
bien sûr. Voilà. Non mais si on en parle, c'est parce que c'est un phénomène de société.
Mais oui.
Que un menu d'un fast-food soit à 5 euros, soit une information qu'on traite dans les médias français, ça interroge quand même.
Mais ça interroge sur la qualité aussi. Encore une fois, le burger, il a deux steaks. C'est-à-dire que pour 5 euros, t'as un burger avec deux steaks, une petite frite, une petite boisson,
un
petit dessert.
Ça interroge sur la qualité.
Mais même on a eu
si tu cuisines chez toi, déjà, t'en as pour plus cher que ça, quoi.
Oui, enfin, c'est un peu papier cigarette, un feuille de papier cigarette.
C'est pas des vrais steaks.
Mais oui,
c'est pas des vrais steaks. Voilà, ça pose la question sur la qualité.
Oui, bah alors voilà, si c'est pas pour manger des vrais steaks.
Tu sais, McDo, c'est comme ça.
Oui, enfin, t'as des vrais steaks aussi chez McDo.
C'est des vrais steaks, mais je veux dire, c'est pas le steak à 5 euros qu'on pourra acheter en super. Marché,
c'est pas un charolais,
quoi. C'est pas un label rouge.
Oui, ça d'accord.
Moi, je vais vous dire pourquoi, en réalité, cette décision, elle a d'énormes enjeux. C'est parce que déjà, d'une part, aujourd'hui, McDo, ça coûte 30 euros. Hein, si tu te fais un menu golden.
Mais non, 15, pas 30 euros.
Il m'arrive très souvent, en rentrant de boîte de nuit, si tu fais la commande à 5h du mat, que énormément de gens font, ne me jugez pas. Ça coûte très cher. Voilà.
Mais il y a peut-être 10 balles de livraison dans ta commande à 5h du matin.
Personne ne paye 30 euros au McDo.
Mon avant-propos. On s'en fout. Déjà, c'est devenu cher. Qu'est-ce que c'est le vrai problème là-dedans? Qui, aujourd'hui, est un fast-food qui vend à 5 euros? C'est Master Poulet. C'est Géladal, c'est Point B, et c'est Tasty Crusty, c'est 9,90€.
Au tacos.
Le problème, c'est que McDonald's, ça fait à peu près 20 ans qu'il y a des lobbies pour justement la santé des jeunes qui travaillent au niveau européen et au niveau français, qui forcent McDo à améliorer leurs conditions, non seulement de travail, mais leurs conditions d'hygiène et de provenance des produits. Donc en fait, McDo aujourd'hui, à côté d'un Master Poulet, c'est un restaurant gastronomique limite. Tellement la viande est meilleure, vient d'Europe ou vient de France, le fromage pareil et les produits sont sourcés, d'accord? Et surtout, le droit du travail est respecté et il y a des conditions d'hygiène. J'ai une copine qui a bossé au McDo parce que c'est quand même un des premiers employeurs de France. Oui. Tous les étudiants bossent au McDo, se lavent les mains toutes les 5 minutes.
Oui,
chose qu'on n'impose pas du tout aujourd'hui dans un Master Poulet où ton poulet il vient de Pologne.
C'est une grande chaîne, bien sûr.
Ou dans un Tasty Crusty ou pareil, ton poulet de frit, je sais pas d'où il vient, mais ça se trouve
c'est les Américains sont hyper hygiénistes aussi. Donc,
voilà, donc en fait,
non, c'est pas ça. Moi, j'y ai bossé au McDo et on se lavait les mains toutes les 5 minutes. En effet, ça sonnait même si on se lavait pas les mains. Et il fallait pas question de laisser traîner un sac poubelle au fond d'une cuisine. On disait, mais parce que tu te rends compte pour l'image. C'était ça aussi le nerf de la guerre. C'est qu'à l'époque, McDo avait une mauvaise image. Il fallait surtout pas.
Je vais vous dire, c'est ça qui est triste aujourd'hui. L'autre jour, j'ai vu une vidéo de l'influenceur Yann Vu Cuisine, qui est un influenceur food. Il va justement chez Master Poulet. Il mange, c'est dégueulasse. Il va au Burger King et il dit, vous vous rendez compte qu'on en est arrivé au stade où maintenant, quand je vais dans un fast food de type McDo ou Burger King, pour moi, c'est de la bonne bouffe tellement l'autre est dégueulasse. D'accord. Et en fait, on en est là. Et c'est pour ça que McDo, le fait qu'il baisse les prix, il y a un enjeu limite de santé publique. C'est mais que non, quitte à manger de la malbouffe. Non, mais c'est de la malbouffe, ouais. Hein. Attention. N'allons pas dire que c'est de la bonne
mais
bouffe.
Tu veux dire, c'est moins de la malbouffe.
Mais quitte à manger de la malbouffe, autant que ce soit McDo qu'un Tasty Krusty ou un Master Poulet, où les normes ne sont pas du tout les mêmes à l'intérieur parce que les lobbies ne s'y sont pas encore attaqués.
Il y a 50% de la viande de chez McDo qui est française, mais donc pas 50% qui ne l'est pas.
Bien sûr.
Mais c'est beaucoup plus contrôlé. Elle peut être hollandaise, elle peut être allemande.
C'est beaucoup plus contrôlé qu'un Master Poulet ou qu'un Tasty Krusty ou qu'un Géladal.
Oui, mais est-ce qu'on peut se féliciter encore une fois?
Non, c'est triste.
Pardon, mais personne ne peut s'aligner. Et encore une fois, même toi chez toi, tu ne peux pas avoir ce. Souvent, on dit, si tu cuisines chez toi, ça va te coûter moins cher. Là, ça te coûte plus cher. Tu peux pas avoir ce prix-là chez toi.
Parce que c'est une multinationale. Oui. Parce qu'ils ont tellement d'argent, c'est-à-dire qu'un petit restaurateur ne peut pas se permettre ça. McDo, pendant quelques mois, parce que c'est immense, ils peuvent se permettre.
Mais c'est un produit d'appel pour. Oui, mais pour faire venir après des clients qui paieront 10 balles.
Mais c'est de l'investissement pour son image, parce qu'il y aura. Pour attirer de nouveau des clients, etc.
Après, ils ont les moyens de le faire, puisque pour rappel, ils perdent le contrat de naming avec la Ligue 1 qui valait 30 millions d'euros par an.
Oui.
Donc ils économisent 30 millions pour être réinvestis.
Pour faire des burgers à 5 euros.
Ils sont 3 fois plus chers que leurs concurrents.
Raphaël est artisan dans le nettoyage dans les Pyrénées-Atlantiques et il voulait réagir à ce débat. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Raphaël, vous allez souvent chez McDo ou pas?
Non, j'y vais une fois de temps en temps, on va dire à la 113. Là, j'y suis allé mardi dernier, d'où mon message. Moi, ça me fait rigoler parce que ma femme et moi, mardi soir, on a pris McDo, j'en ai eu pour 60 balles.
Bah, comment c'est possible?
Alors, je vous explique. Ma femme, je lui prends un meule du Golden Ligon, puisque justement on parlait du naming.
Ouais.
Moi, je prends tout le reste, mais je ne prends ni frites, ni boissons. Sachant que quand vous prenez un menu, c'est un peu un menu Golden Ligon, ça doit être aux alentours de 13-14 euros, si je ne dis pas de bêtises.
D'accord.
Vous prenez un double cheeseburger, il est déjà à 9 euros et des bananes.
Ouais, c'est très cher.
Donc, moi, comme je suis un bon mangeur, parce qu'il faut me remplir pour manger ça. Eh bien, ni plus ni moins, moi, je m'en sors. Je m'en suis sorti pour 60 balles. Comme je disais à votre standardiste.
Et vous avez pris combien de burgers, Raphaël?
Alors, je vais vous dire, j'ai pris un double cheeseburger bacon, un double cheeseburger normal. J'ai pris le nouveau, là, qui est sorti. J'ai pris deux petits ranchs, là.
Vous avez mangé pour une semaine, là? Vous avez congelé, non?
Ah non, vous rigolez ou quoi?
Le petit ranch, en deux bouchées, il est fini.
Trois burgers quand même, avec un morceau de poulet dedans. Donc voilà. Et il y a les petits Texas, là, ou Texans, je ne sais pas comment ils s'appellent, qui sont à 2,50€.
Vous avez pris une petite salade avec ou pas?
Non.
Le coca, zéro.
C'est ce que je fais.
Je ne prends pas de coca.
Ah ouais.
Mais en plus, je veux dire, c'est bien leur menu à 5€, c'est très bien pour les gamins. Ça va permettre aux parents de pouvoir éventuellement amener leurs gamins au McDo.
Un burger supplémentaire.
Est-ce que c'est bien, je veux dire, qu'on nous pousse à amener nos gamins au McDo Chon parce que c'est pas cher? C'est ça la question.
Mais est-ce que c'est bien ou pas? Aujourd'hui, de toute façon, vu le pouvoir d'achat, honnêtement, moi, à ce prix-là, je préfère aller bouffer au resto, ce qu'on fait régulièrement avec ma femme, au moins une fois par semaine. Mais au-delà de ça, je veux dire, quand vous avez 2 ou 3 enfants, moi j'ai de la chance, mais nos enfants sont grands. Donc, à la limite, ils se débrouillent. Mais quand vous avez 2 ou 3 enfants, c'est bien parce qu'ils aiment bien ça. Et je trouve pas ça déconnant. Faut arrêter de dire, c'est de la malbouffe, machin, truc bidule. Oui, aujourd'hui, je suis désolé quand vous allez. C'est moi qui fais les courses à la maison. Quand je vois les caddies que je fais pour 2, on en a pour 3 semaines, ça me coûte entre 250 et 300 euros. Alors certes, on se fait plaisir parce que c'est le truc où vraiment, il y a pas, la bouffe, c'est le plus important. Après, j'ai pas le dernier téléphone, j'ai pas le dernier truc, machin.
Oui, je comprends.
Mais la base, elle est là. Et aujourd'hui, on dit bien manger. Moi, j'ai mon beau-fils qui travaille chez McDo à Albi. Je vais vous dire, honnêtement, les tout ce qui est hygiène et tout ça, ils sont vachement à cheval là-dessus. Maintenant, quant à la qualité des produits, ils font de la pub pour les agriculteurs français. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, je peux pas le dire.
C'est sûrement,
s'ils en font la pub, sinon ils auraient la répression des fraudes qui leur serait tombée dessus. Mais au-delà de ça, je veux dire, honnêtement, qui on est pour dire c'est bien, c'est pas bien? On a tous un avis
différent. Je suis d'accord, Raphaël, mais en tout cas, qu'on aime ou pas McDo, si vous regardez, c'est sûr qu'il y a des sandwichs qui sont extrêmement caloriques. Et évidemment que pour un gamin, s'il mange McDo de temps en temps, mais tant mieux, on l'a tous fait avec nos enfants, on le fait nous-mêmes en plateau. Après, si on commence à se dire, je vais plutôt l'amener chez McDo parce que c'est 5 euros, ça me coûtera moins cher. En fait, quand on amène les gamins au McDo pour leur faire plaisir.
C'est moins de 5 euros depuis des années.
Non, mais j'entends. Mais quand t'emmènes tes gamins au McDo pour leur faire plaisir, c'est une chose, et encore une fois, on l'a tous fait. Mais quand tu l'amènes pour une problématique de pouvoir d'achat, là, c'est un vrai problème de société, enfin, pardon.
Si c'est fait pour un plaisir pas cher, un plaisir de temps en temps,
c'est
comme
le petit cadeau, tu vois.
Le petit cadeau du week-end avec les enfants, il n'y a aucun problème.
Mais
si c'est parce que c'est une problématique de pouvoir d'achat, c'est là où c'est grave.
Bien sûr.
On parle du débat pour ou contre, on va pas se positionner, c'est bien pour ces petits plaisirs. Mais c'est une problématique de pouvoir d'achat.
Alors, merci Raphaël, en tout cas, d'avoir été avec nous, Élise.
Oui, ces gens-là, s'ils vont pas acheter le menu à 5 euros du McDo ou au moins les produits sont sourcés, ils vont chez Tasty Krusty ou chez Ma Sœur Poulet.
Dans tous les cas,
c'est un problème. Mais je pense que il vaut mieux aller au McDo. C'est horrible.
Non, il vaut mieux solutionner la question du pouvoir d'achat avant de dire
qu'il
vaut mieux aller au McDo plutôt que d'aller chez Tasty Krusty ou Ma Sœur Poulet.
Ou alors aider les Français à pouvoir acheter des produits de bonne qualité, baisser les produits du bio, des fruits et légumes, etc. Et faire peut-être encore plus de campagnes de prévention sur l'obésité, notamment. Pourquoi vous souriez comme ça, Charles Magnin?
Parce que Mathieu nous écrit, avec tout ce que j'entends sur McDo depuis 20 minutes, et ça y est, j'ai craqué, je vais aller me garer au McDo pour manger.
Moi aussi, ça me suis en train de me dire, je vais commander McDo pour ce soir, c'est affreux.
Pourriez-vous faire un débat sur les courgettes demain, s'il vous plaît? demande Mathieu, vous êtes nombreux à soutenir Raphaël avec sa commande à 60 euros et tous ses burgers. Il y a David ou Guillaume qui nous dit, moi j'en ai pour 30 balles à chaque fois. J'ai une sacrée carcasse à remplir, c'est comme ça, et pourtant j'ai faim à la fin, nous écrit Guillaume. Sandrine nous dit, mais on parle d'un petit menu McDo, un petit menu KFC, un petit menu Burger King, et à la fin on va parler d'une petite obésité et d'une petite dégradation de l'état de santé en France, nous dit Sandrine. Alors, et puis Oxymore qui nous écrit, le menu McDo à 5 euros, ça ne concurrence pas le menu du Crous à 1 euro pour tous les étudiants. C'est peut-être
ça fait moins envie, le menu du Crous, bizarrement.
C'est moi, c'est
oui, la purée de carottes d'hier avec le cordon bleu, c'est
c'est ça, les endives au jambon du Crous.
On n'en est pas mort.
Toute la fac, midi et soir.
T'avais le sourire tous les jours.
Il y a rarement des fois où tu dis, oh chouette, c'est génial, c'est un
Crous. Je suis désolé, moi j'ai trouvé ça plutôt bon.
Oui, enfin, pardon, excusez-moi Fred, je ne veux pas, mais quand était-ce?
Ah,
il y a 200 ans.
À partir de 88, de 88 à 92.
Voilà.
Bon, c'était en franc, quoi.
Voilà, c'était.
C'était ça. En franc, oui. Et alors, ce menu McDo.
Il y avait moins de fast food à l'époque.
Il n'y avait que McDo.
Oui, voilà.
Bon. Ce menu McDo à 5 euros est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle? On vous a posé la question sur nos réseaux. Vous avez répondu bonne nouvelle à 64%.
14h22 dans Estelle Midi, c'est l'heure du tu préfères.
RMC Estelle Midi. Tu préfères.
On parle foot, on parle sport dans le tu préfères. Tu préfères, tiens, on va s'intéresser au match de ce soir. Voir un match dans un bar ou voir un match à la télé, Fred Hermel?
Alors, je suis très chiant pour le foot. Oui. En fait, j'aime bien le voir chez moi, tout seul.
Oh, wow.
En peignoir.
Non, mais pour une raison très simple. C'est-à-dire que pour les matchs importants, je déteste les commentaires de ceux qui n'y connaissent rien et qui t'expliquent. Quand t'es un peu, alors je dis pas que toi et moi on connaît mieux que tout le monde, mais enfin on connaît un peu le sujet et que t'entends des gens qui ne suivent pas le foot d'habitude, etc., qui te font des remarques et tout, t'as envie de les baffer. Donc en fait moi le foot je n'arrive à le voir que tout seul. Voilà, c'est devenu comme ça. Ouais.
C'est quand même un peu triste.
C'est un peu triste.
Et c'est genre une finale de Coupe du Monde, vous mettez pas dans un bar et tout.
Non. Puis en plus, moi j'aime bien mon petit confort. Moi j'ai acheté une très grande télé. Mais oui, je suis un vieux. Une très grande télé avec un très bon son, une très belle image, etc. Pour voir le travers, etc.
Fauteuil massant et tout.
Ouais, quasiment, ouais. Mais c'est vrai que plus le match est important, plus j'ai envie d'être seul pour ne pas entendre des commentaires des autres.
Élise Goldfarb, est-ce que ce soir, tiens, vous allez quand même regarder le match?
Je vais peut-être le regarder parce que celui d'avant, je l'ai pas vu et vu que tout le monde était en folie, je me dis, j'ai pas envie de rater un moment d'histoire. Donc moi, je regarde pas vraiment le foot, je regarde que les finales ou les Coupes du Monde. J'adore la Coupe du Monde, par contre. Et genre, la finale de la Ligue des Champions avec le PSG, je l'ai regardée.
D'accord.
Dans un bar.
Ok.
Parce que je trouve que dans un bar.
Fred.
Chez Fred.
Fred, il aura adoré vos remarques.
Donc je me cache dans un placard.
Ah oui.
Mais pourquoi il va pas passer la balle?
Non, mais je trouve ça trop sympa de regarder dans un bar. C'est
là,
vraiment des moments de.
Il a vraiment mal, là, parce que je vois ce.
C'est des moments d'unité et de cohésion, voilà. Mais je comprends rien. Donc je me tais justement pour pas.
Ça c'est bien.
Voilà,
ça.
Pour pas
ça,
faire
bien,
chier.
Ouais. Bah,
les vrais fans, je fais pas de commentaires parce que je peux pas
je
la ramener.
Je n'y crois pas une seconde.
Je te jure. Je fais plutôt des commentaires où je dis genre coup franc, je rigole. Je sais pas ce que ça veut dire.
Et voilà. C'est pour ça qu'on reste chez nous.
Voilà.
C'est
non, je rigole.
C'est
je dis rien.
Comme toi.
En vrai, je dis rien.
Ouais.
Je kiffe. c'est trop sympa dans les bars.
Tu dis pas pourquoi il n'y a pas eu but.
Non, je dis rien en vrai.
Tu ne juges pas le physique, les coupes de cheveux des joueurs?
Rien, je m'en fous, je suis lesbienne.
Ok, bon alors, oui, c'est vrai que... Pierre Rondeau.
Moi, c'est chez moi, j'aime accueillir, donc j'aime accueillir des gens chez moi, mais que des spécialistes. Voilà, donc les gens viennent chez moi, on regarde le match entre spécialistes et on fait des bons commentaires.
On n'est pas
invité. vous êtes conviés ce soir chez moi si vous voulez.
Il y a des chips aromatisés.
C'est grand.
Je vais vous envoyer la photo, j'ai toute la collection de Bretz pour ce soir.
Mais wow. Non.
Ah, j'ai poulet rôti, côte de bœuf, yakitori, moutarde au miel.
Le mec qui parle de bonne bouffe depuis tout à l'heure.
Ah, mais c'est français, madame.
Oui, c'est breton, même.
Et il a une essorose à salade, lui.
Ah oui, bon, ouais. Non, donc, vous faites jamais de match dans les bars?
Alors, là, je l'ai fait pour PSG Liverpool, et il s'avère que, anecdote, derrière nous, il y avait une table, vraiment, les beaufs ultimes. Mais vraiment, la beauf.
C'est quoi un beauf?
Absolue. Bah, quand Guili touchait la balle, il criait chinois. Ce genre de choses.
Oula.
Voilà, donc okay. On était sur ce genre de credo.
Ouais, c'est raciste, oui.
Ah, oui, enfin, c'est con.
Oui. Okay, oui, voilà.
Le beauf est souvent raciste.
Et donc ça vous a vacciné.
En fait, ça m'a dégoûté parce que derrière nous, il n'arrêtait pas de gueuler rien avec des propos racistes et débiles. Vous dites, c'est bon, à la maison, tranquille, avec mes potes.
Changer de bar, peut-être, non?
Oui, mais j'aime bien accueillir, j'aime bien être chez moi, je suis posé chez moi, tranquille, mes copains viennent et on s'amuse et c'est rigolo.
Charles Magnan?
Moi, j'adore le bar ou le grand écran pour, en effet, quand c'est la Coupe du Monde. C'est rarement des grands matchs, les matchs de premier tour et tout, quand c'est des France-Costa Rica, des purges. Mais que tout le monde a envie de regarder d'un seul coup, toutes les hélices Golfarb de France ont envie de regarder.
Tous les footix.
Voilà.
Bah oui.
Bah, c'est marrant à regarder parce que c'est pas. Mais là, un match comme ce soir, non, j'ai envie de bien le voir. J'ai fait l'erreur la semaine dernière. Je n'étais pas au stade, j'étais chez moi et j'avais un copain qui était en pleine rupture amoureuse.
Aïe,
il me dit, ça va pas en ce moment et tout. Je lui dis, si tu veux, je suis à la maison ce soir, passe. Mais je te préviens, regarde bien le match. Hein. Il me dit, j'adore le foot aussi, pas de problème. Résultat, il y connaissait rien. Et pendant une heure et demie, il m'a parlé de son ex. Elle m'a écrit
on
ça.
On l'embrasse, comment il s'appelle?
Non, je donnerai pas de nom. Mais j'ai passé le match, ça lui dit, oui, t'as l'air de souffrir. Mais moi, j'ai une autre souffrance en direct. Là, c'est Dembélé qui est en jeu, donc ta gueule. Voilà. C'était un peu ça pendant une heure et demie. Dit, oui.
Tu comprends, je souffre, ta gueule.
J'ai dit, on en reparle, mais à la mi-temps, là, parce que voilà, il y a un match là.
Je suis en train de penser au copain qui est en train de se dire, Charles, il est plein d'empathie, il m'a accueilli chez moi la semaine dernière, il est en train de regarder, il dit, merde.
Oui, j'étais une oreille très attentive parce que je faisais que...
Oui, d'une oreille seulement.
Pendant une heure et demie.
C'est ça. Voilà.
Donc, non, à bien choisir le casting quand on le regarde à la maison, merci. C'est essentiel.
Oui. Moi aussi, je préfère chez moi.
Mais sinon, c'est insupportable.
Et on vous a posé la question sur nos réseaux. Est-ce que vous préférez regarder à la maison ou dans un bar? Vous préférez regarder chez vous, à 81%.
Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. On va parler de travaux de rénovation. Vous savez que, en ce moment, c'est une catastrophe. Tous les matériaux ont augmenté. Mais avec Charlotte, on va voir comment est-ce qu'on peut faire encore baisser les prix. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est RMC Conso avec Charlotte Méritant.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et on va parler d'une mauvaise nouvelle, Charlotte. On va parler de travaux de rénovation. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tous les secteurs du bâtiment sont impactés par la guerre au Moyen-Orient. Les prix des matériaux augmentent fortement depuis 2 mois. Et ça risque malheureusement d'être bientôt répercuté, si ça ne l'est déjà, sur les devis des artisans.
Oui, tout augmente à cause évidemment de la hausse du prix du baril de pétrole, entre plus 50 et plus 70% par rapport à l'avant-guerre. Tout simplement parce qu'énormément de matériaux sont des dérivés de ce pétrole. Exemple le plus parlant, le bitume. Il est fabriqué par distillation de pétrole brut. Ça sert à faire des routes, le bitume, mais pas que. Hein. Chez les particuliers, on utilise parfois, par exemple, de l'enrobé bitumeux pour les allées de jardin. Il sert aussi pour les produits d'étanchéité de la toiture. Et son prix a augmenté de 15 à 35% selon Samuel Minot, avec qui j'ai discuté hier au téléphone. Il est président de la Fédération française du bâtiment d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Et puis, évidemment, on en a parlé il y a quelques instants dans Estelle Midi, le prix du plastique.
Qui sert à fabriquer énormément d'isolants. L'exemple le plus parlant, là encore, c'est polyuréthane, un des plus utilisés, un des plus efficaces aussi en termes d'isolation. Dans les plastiques, il y a le PVC. Le PVC, ça sert à fabriquer des fenêtres, des canalisations. C'est le troisième plastique le plus utilisé dans le monde et principalement pour les travaux. Entre 10 et 20% d'augmentation sur ce PVC. On peut encore citer les solvants à base de pétrole qui impactent le prix des peintures, la colle, etc. Et même des matériaux qu'on ne soupçonne pas, qui ne contiennent pas de matières premières à base de pétrole, sont impactés. Par exemple, les tuiles en terre cuite. Pourquoi? Parce que pour les fabriquer, pour les cuire, il faut des fours très puissants au gaz ou au fioul, et donc résultat, une hausse de 5 à 9% sur cette huile également.
Et évidemment, c'est tous ceux qui ont des travaux à faire chez eux qui sont impactés.
Oui, puisque les artisans répercutent ces hausses de prix des matériaux dans leur devis. Samuel Minot me donnait l'exemple d'un étancheur pour qui une prestation d'étanchéité revient aujourd'hui 15 à 20% plus cher qu'avant. Et donc forcément, à la fin, c'est le client qui paye. Oui. Parce que pour lui, sinon, l'artisan ne pourra pas rentrer dans ses frais. Il y a un autre impact qu'on voit moins venir, mais qui est réel, c'est que les artisans réduisent la durée de validité de leur devis pour ajuster leur prix plus fréquemment. Aujourd'hui, c'est une semaine à 15 jours de validité, alors qu'avant, c'était plutôt 30 à 45 jours. Après, ça dépend évidemment des artisans. Ils sont libres de mettre la durée qu'ils le souhaitent. Mais ça nous fait, nous, consommateurs et particuliers, moins de temps pour se décider sur un devis. Donc, c'est un vrai problème.
Franchement, Charlotte, est-ce que toutes ces hausses, elles sont vraiment justifiées ou est-ce qu'il y a des profiteurs de guerre, on va dire?
Les matières premières coûtent incontestablement plus cher, mais c'est vrai que ce qui est un peu surprenant, c'est que les hausses de prix sont arrivées très vite après le début de la guerre, alors qu'il devrait normalement y avoir un décalage. Donc c'est sûr qu'il y a eu de l'anticipation liée à la peur, peut-être le souvenir des hausses de prix en 2022, la guerre en Ukraine, un petit traumatisme par rapport à ça. Mais sans aucun doute aussi un peu de spéculation. Il y a un exemple là-dessus, c'est le bois. Le bois brut, on voit pas pourquoi il serait impacté, à part bien sûr effectivement pour le transport, puisque le carburant coûte plus cher. Mais à part ça, il n'y a pas de raison. Et pourtant, des artisans menuisiers ont constaté des hausses. J'ai discuté avec Sylvain, qui est menuisier en Charente, qui me parle d'une hausse de prix de 10 à 15% sur le bois. Un autre exemple, Jérôme, qui me racontait qu'il avait vu une hausse de 100 euros sur 12 mètres carrés de plaques de bois à coller au mur pour de la décoration, qui sont passées donc de 400 à 500 euros en un mois. Ça fait 25% sur le produit fini. Oui, voilà. Ça paraît franchement excessif.
Donc il y a quand même des arnaques. Méfiez-vous. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux attendre pour faire ses travaux ou est-ce qu'au contraire, il faut les faire tout de suite? Est-ce que ça se trouve, ça va encore augmenter, quoi?
Tout ce qui n'est pas du tout urgent et qui peut être reporté sur plusieurs mois, voire plusieurs années, il vaut mieux attendre, évidemment. En revanche, si vous avez des besoins qui sont sur les 6 prochains mois, oui, il vaut mieux signer maintenant, au contraire même, pour bloquer un prix maintenant, avant que ça ne monte encore plus dans les semaines à venir.
Merci beaucoup, Charlotte, pour tous ces conseils à réécouter en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes, bien sûr, de téléchargement. On parle de quoi demain dans RMC Conso?
Demain, je vous parlerai du miel, parce que vous savez que c'est un des produits les plus difficilement traçables, sur lequel il y a le plus d'arnaques. Mais ça s'améliore, il y a des réglementations qui viennent s'ajouter pour nous aider à mieux nous repérer dans les rayons. Donc, je vous expliquerai tout ça.
Voilà, comment bien choisir son miel. Merci beaucoup, Charlotte Mériton, RMC Conso, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables de Charles, avec un joli programme.
Oui, évidemment, oui. On va parler notamment de la place des femmes en politique. Tiens, ce chiffre aussi surprenant, un tiers des foyers éligibles au RSA ne le perçoivent pas, ne le demandent pas. Et puis, on parlera de l'ego des Français. 59% des Français sont incapables d'entendre une vérité sur eux-mêmes.
Les immanquables de Charles, tout de suite sur RMC. Petite pause et on se retrouve dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h41, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans un instant, les immanquables de Charles. Mais tout de suite, on vous fait gagner de magnifiques vacances sur RMC.
Mais oui, des séjours bel en bras à remporter toute la semaine. 45 destinations, vous allez pouvoir choisir la mer, la montagne, des séjours, tout compris d'une valeur de 2000 euros.
Et notre grand gagnant du jour, c'est Cyril de Talluyer dans le Rhône. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On vous fait partir en vacances, Cyril, grâce à RMC.
Et ça, c'est génial.
Ah bah écoutez, tant mieux, je vous sens heureux. Et ça, ça nous fait plaisir. Vous choisissez quoi, Cyril? La montagne, la campagne, la mer?
Ouais, je pense que ce serait la mer.
Eh bah, vous avez bien raison. Cyril, vous allez partir avec qui?
Ma femme et les enfants.
Là encore, vous avez bien raison, Cyril. En tout cas, on est très heureux de vous faire partir en vacances grâce à RMC. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Cyril.
Et vous faites comme Cyril, vous continuez de vous inscrire. Toute la semaine, vous envoyez un petit SMS, le mot vacances au 732-16. Et tous les jours, on vous offre vos séjours Bel en Bras.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bel en Bras. Bel en Bras Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on démarre ces immanquables, Charles, avec la polémique du jour.
Elle concerne Eugénie Bastier. Le Parisien a révélé que France 2 avait débauché Eugénie Bastier, journaliste conservatrice du Figaro, pour sa nouvelle émission politique à la rentrée. Un recrutement vivement contesté en interne par les journalistes de France Télévisions qui ont publié un communiqué hier soir. Ils dénoncent une journaliste très conservatrice et souverainiste. Selon eux, elle ne peut incarner et animer le débat politique de France 2. Ils pointent notamment ses propos anti-MeToo et selon eux, il est regrettable de rémunérer une chroniqueuse qui attaque constamment l'audiovisuel public.
Fred Hermel, est-ce que ça vous choque cette fronde des journalistes de France 2 contre l'arrivée de Eugénie Bastier ?
Alors si la Société des journalistes de France Télévisions voulait faire de la publicité pour le rapport parlementaire de Charles Alonc qui dénonce le manque de pluralisme au sein de France Télé, il ne pouvait pas faire mieux. Voilà. Il se trouve que Eugénie Bastier n'est pas une amie, mais je la connais. C'est sûrement l'une des journalistes les plus douées de sa génération. Elle a 34 ans. Elle est brillantissime. Elle est quand même responsable des pages idées du Figaro, ce qui n'est pas rien. Enfin, je veux dire, le Figaro, c'est quand même un journal sérieux, quand même. Voilà.
Mais on peut ne pas cautionner ses idées.
Bah, ses idées, elle est de droite.
Oui.
Bah... Oui. Donc, ça veut dire que dans une émission politique, une chroniqueuse ne peut pas être de droite. Après, elle va pas animer le débat. C'est l'heure de vérité. Elle va faire partie des différents.
Il y aurait trois intervieweurs, voilà. Eugénie Bastier donc, mais aussi Marc-Olivier Fogiel et Benjamin Duhamel.
Exactement. Avec des visions du politique différentes pour questionner.
Oui, sauf que la différence, c'est que moi, je ne sais pas pour qui vote Marc-Olivier Fogiel et je ne sais pas pour qui vote Benjamin Duhamel. Je ne connais même pas leur orientation politique. Là, Eugénie, je ne connais pas leur orientation politique. Oui. Enfin, Eugénie Bastier, je la connais.
Oui, elle est de droite, mais je sais pas pour qui elle vote.
Mais est-ce que c'est pas gênant d'avoir d'un côté une fille qui est de droite dont on sait qu'elle est de droite, et de l'autre côté deux intervieweurs dont on ne sait pas le bord politique ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre Eugénie Bastier et d'un autre côté un chroniqueur affiché à gauche ? C'est ça que je veux dire. Moi, ce qui me gêne, c'est de connaître le positionnement de quelqu'un qui va interviewer un homme politique et de pas connaître le positionnement des autres.
Parce qu'elle est au Figaro.
Mais on sait qu'elle est droite.
On l'a entendu sur CNews, je pense. Sans pouvoir se tromper, on peut dire qu'elle est droite.
Mais on a plutôt pris, en tout cas, l'heure de vérité. Moi, j'ai très envie de revoir cette émission parce que c'est tout mon enfance, François de Virieux et tout ça. Enfin, bref, c'est un grand défi parce que c'était quand même la top émission. Donc, il y a un risque que prend France Télévisions. Elle est surtout là, Olivier Dacier, parce qu'elle est vraiment très bonne. Elle est très cultivée.
T'as des gens de gauche très bons aussi.
Il y a un vrai débat. Marc-Olivier Fogiel,
je sais pas pour qui il vote, Marc-Olivier Fogiel. Voilà. Et je le connais depuis des années. Oui. Je suis incapable de te dire pour qui il a voté.
C'est un grand journaliste. Et Benjamin Duhamel, qu'on a bien connu ici aussi.
Je suis incapable de te dire pour qui vote Benjamin Duhamel.
C'est toute la question dans l'éthique et dans la responsabilité et le cas de conscience d'un journaliste. Quand on fait du journalisme politique, on va être amené à interviewer à la fois des gens de gauche et des gens de droite. Et par définition, un journaliste compétent, il est objectif. Il prend pas parti.
L'objectivité, ça n'existe pas.
S'il vous plaît.
Déjà, un journaliste doit être honnête,
s'il vous plaît. Laissez parler Pierre.
Normalement, en tout cas, par acquis de conscience et par éthique, un journaliste est objectif. Même si, dans l'isoloir, il va aller voter pour qui il veut, on n'est pas censé le savoir. Moi, j'ai en tête Jean-Michel Apathy qui l'a dit officiellement, il a coupé sa carte d'électeur.
Il vote blanc, il l'a toujours dit.
Certainement deviné qu'il est plutôt de gauche ou plutôt de droite, peu importe. Attends.
Il a toujours dit qu'il votait blanc.
Il affiche, et les journalistes politiques compétents comme Benjamin Duhamel n'affichent pas ouvertement leur positionnement politique. Un journaliste compétent et objectif n'affiche pas ouvertement pour qui il va voter.
Mais elle est éditorialiste.
Alors, qu'on se mette d'accord sur le terme. Est-elle embauchée en tant que chroniqueuse éditorialiste ou en tant que journaliste?
Alors, elle va poser des questions.
On est dans un débat journaliste.
Non, mais attendez, on va pas rentrer dans les subtilités de journaliste éditorialiste. Le grand public s'en fiche. Quand il regardera l'heure de vérité, il verra qui interview. Son seul, ce qui fait un bon journaliste, c'est pas la neutralité absolue, le fait de même pas avoir à la moindre opinion sur quoi que ce soit. C'est d'être dans la vérité. Tant qu'elle ne donne pas des fake news, des faux faits, qu'elle ne tord pas la réalité.
Charles,
elle pourrait pas être intervieweuse à l'entre-deux-tours, par exemple.
Moi, je sais
qu'on connaît ses opinions politiques.
Je pourrais me poser des questions si elle s'est amenée à interviewer le candidat à l'élection présidentielle de la droite. Je pourrais me poser des questions sur son objectivité. Qu'elle soit ou pas compétente.
Parce que là, on se pose pas des questions. Excusez-moi, sur le service public. On se pose pas des questions quand il y a une invitée de gauche.
Ne polémique pas surtout, on se les pose aussi. Fred, on se les pose aussi. Je dis que globalement, droite comme gauche, ce qui va compter, c'est l'objectivité.
Ce qui aurait été intelligent, vu qu'on sait que Eugénie Bastier est une journaliste plutôt de droite conservatrice, c'est qu'ils mettent aussi dans les intervieweurs quelqu'un de gauche conservatrice.
Exactement.
Parce que là, en vrai, Benjamin Duhamel et Fogiel, ils sont à peu près au même niveau politiquement, je pense. Ils sont pas réputés pour être des journalistes très à gauche, là où Eugénie Bastier
est très à droite.
Très à droite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils mettaient quelqu'un très à gauche de l'autre côté, bon, bah, ce serait peut-être plus
fair. Elle n'est pas très à droite, elle est de la droite
Eugénie
conservatrice.
Eugénie Bastier, elle a tenu, pour moi, des propos, notamment sur MeToo, qui, moi, en tant que féministe radicale, m'ont un peu fait du mal. Après, je la respecte
comme
en tant
féministe
que...
radicale, tu dis.
Oui, mais je la respecte en tant que journaliste profondément. Et son éthique. Mais en revanche, on peut équilibrer.
En fait, ce qui gêne, simplement pour terminer, c'est parce qu'elle est de droite. C'est ça le problème.
Non, mais on
c'est-à-dire
peut équilibrer.
Quand
de
droite,
on pourrait équilibrer. Moi, je suis d'accord avec
Élise. Quand tu es de droite en France, tu es suspect.
Mais voilà. Pour moi, il aurait fallu équilibrer. Voilà. Tout simplement pour que les choses elles soient claires.
Aucun souci à ce qu'elles soient là, mais il faut équilibrer.
Exactement. Le coup de tonnerre du jour.
Ah oui, le tournant politique du jour.
Ça me rend malade.
Elisabeth Borne quitte la direction de Renaissance en cause.
Et qui savait qu'elle était chef de Renaissance?
Oui, elle faisait partie en tout cas de la direction du parti dirigé par Gabriel Attal. Et c'est justement parce qu'elle trouve que ce parti sert trop l'aventure solitaire de Gabriel Attal qu'elle choisit s'écarter de la direction du parti.
Ils s'aiment pas beaucoup, tous les deux. On rappelle que Gabriel Attal avait remplacé Elisabeth Borne à Matignon. En même temps, c'est fou quand même. C'est un peu dommage. Mais non, mais elle était première ministre, deuxième femme première ministre il y a 3 ans, et aujourd'hui elle en est à quitter la tête du parti.
Direction d'un parti politique. Hein, c'est pas non plus le scandale ou l'aventure ou l'information politique de la semaine. Elle sort aussi un livre qui est programmatique.
Baptisé Réveillons-nous.
Voilà, où elle annonce beaucoup de choses alors qu'elle a été aux manettes pendant quelques années.
Elle avait peut-être les pieds moins liés.
Non, mais moi, ça me fait toujours rigoler que ça soit Bruno Le Maire ou maintenant Elisabeth Borne. Et qui, une fois qu'ils ont arrêté la vie politique aux manettes, ils ont été aux manettes, ils se mettent à écrire des bouquins pour dire il faudrait faire ça.
Non, mais Elisabeth Borne, elle s'est fait particulièrement maltraiter. On a voulu mettre une femme première ministre, elle est restée 3 mois.
Non, elle n'est pas restée 3 mois déjà.
J'exagère. À la Marseillaise.
Franchement, son discours, elle est son premier discours à l'Assemblée, elle se fait huer, c'est scandaleux.
C'est à l'image, c'est symptomatique de comment les deux quinquennats Macron ont traité les femmes. Il n'y a pas eu de femmes à des postes de ministères régaliens. Les femmes étaient secrétaires d'État.
Il y a Catherine Vautrin aujourd'hui aux armées.
Oui, bah maintenant, aujourd'hui, parce qu'on
demande aux Français
prendre...
qui est ministre des armées, qui sait que c'est Catherine Vautrin.
Qui c'est Catherine Vautrin.
Savait que c'était Sébastien Lecornu. Non, mais elle a un poste régalien, ça a un peu progressé.
On a un peu chié sur les femmes ces deux derniers quinquennats, excusez-moi de le dire. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose de très triste. Je vais vous dire quelque chose de très triste. Vous savez que j'ai étudié le sujet. Quel a été le gouvernement de la Ve République avec le plus de parité?
À droite,
sous Nicolas Sarkozy.
Bien sûr.
Voilà. Où on avait des femmes au poste régalien. On avait Rachida Dati, Valérie Pécresse, Ramayad, Ali Omari, et comment elle s'appelle, Roselyne Bachelot.
Roselyne Bachelot, enfin, la culture.
Nathalie.
Des femmes, en tout cas, qui ont marqué l'époque en politique. Il n'y en a pas eu ni sous Hollande, ni sous Emmanuel Macron. C'est d'une tristesse grave.
Très normal.
C'est quand même pas l'information du jour, donc je propose qu'on aille ailleurs.
Voilà. Bon, enfin, vous êtes dur avec Elisabeth Borne. Elle a été première ministre, c'est normal qu'on en parle.
Elisabeth Borne est une haute fonctionnaire.
Oui, bah et alors?
Voilà, c'est pas une politique. Donc elle n'a pas marqué comme politique. Voilà.
Bah si.
Bah si, la réforme des retraites et tout, excusez-moi, pardon.
Bah, oui, ça
lui a imposé.
Elle est marquante, c'est une pupille de l'État, c'est une femme politique d'exception, Elisabeth Borne.
C'est pas une politique, c'est une servitrice de l'État.
Oui, politique,
mais c'est pas une politique.
C'est la première personne au monde que j'ai vu courir avec un sac à main sur Paris Match. Elle avait fait des photos d'elle en train de faire du running. Elle avait un petit sac à main. Je me suis dit, mais il n'y a pas un conseiller qui lui dit, mais en fait.
Mais oui.
On va pas y croire.
Elisabeth, Babette, enlève ton sac.
T'imagines, la séance photo, vas-y, fais un footy avec ton sac à main. Mais c'est crédible. Bien sûr, tout le monde va y croire.
Oui, ça m'avait un peu frappé.
On voit bien qu'elle n'est pas politique.
Les photos du jour,
En parlant de photos, un grand sondage sur la manière dont les Français prennent des photos. D'abord, un Français sur trois prend des photos tous les jours, désormais, tous les jours des photos, grâce au smartphone, évidemment, 85% utilisent leur téléphone, 17% ont encore un vrai appareil photo, 60% des Français impriment régulièrement les photos qu'ils prennent, les Français qui photographient davantage leurs animaux que leurs enfants, mais oui, dans ce sondage, et plus de 40% retouchent régulièrement leurs photos, c'est même un vrai phénomène chez les jeunes.
Est-ce que les gens retouchent des photos de leurs animaux?
Oui, pour le rendre encore plus
Pierre,
beau.
Est-ce que vous...
Non. Oui, je prends des photos de mes animaux. Mais non, je ne les retouche pas par l'IA.
Ah oui. Je trouve ça hyper dur de retoucher les photos de ces gosses avec l'IA. Genre, il a un peu de bouton, le petit, là. Je vais. Mais c'est affreux.
Non, je pas trop sonné, là. Ouais. Non, c'est un peu un jour et tout. Je sais pas. Non, je sais pas ce qui passe.
Bah, retoucher les photos de ses enfants, c'est un peu. C'est quand même un peu dur, quoi. Enfin, je trouve.
Mais surtout, on a un nouveau réflexe quand on fait des photos toute la journée. Ouais, ouais. Combien alors, de milliers de photos dans votre
téléphone? Tiens, quelle est la dernière photo que vous avez faite? Regardez, c'est la première fois que je vous autorise à regarder dans vos téléphones portables. Tout simplement pour regardez la dernière photo que vous avez faite.
La dernière photo habillée, Fred. Hein.
Oui, voilà. Allez, Charles Magnin.
C'est une photo du tapis de course sur lequel j'ai couru hier pour me souvenir de ce que j'ai fait.
Ah oui, d'accord. Moi, c'est les photos de clés que j'ai retrouvées chez moi. J'ai dit, à qui sont ces clés? Voilà, tout simplement.
Bah, moi, c'est Décathlon d'Aqua Boulevard avec un ami. On a pris en photo le maillot de l'équipe Décathlon CMA-CGM parce qu'on est fan de cette équipe.
Ouais. Bravo.
Voilà. Peut-être qu'on peut vous l'avoir, vous savez.
Oui. Ah bah ouais, oui, j'attends.
Élise Goldfarb.
Moi, c'est une photo d'un pote à moi qui a ouvert un resto hier et j'ai pris en photo son resto.
Ah bah c'est bien, ok. Et voilà. Fred Hermel.
Je peux pas.
Si. Allez-y.
Je peux pas.
Non. C'est des photos de deux livres que j'ai reçus d'une maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle Arléa. Et donc j'ai fait une petite story Instagram avec. Donc voilà, c'est deux photos.
Le livre s'appelle Le Petit Chien Thérapeute.
Comme on voit, tout ça est extrêmement intéressant. Oui,
c'était vraiment très intéressant.
Inutile. En revanche, ce qui est intéressant, c'est Pierre Dorion qui vient d'arriver dans le studio pour nous donner le sommaire.
Il adore prendre des photos de moi.
Ah ouais,
je sais pas pourquoi il est fan de moi. Ouais.
De ce super Moscato Show avec exceptionnel avec l'interview exclusive de Paul Sexas.
Alors là, c'est vraiment pas pareil.
Il faut
c'est une émission exceptionnelle. Ouais. Nous avons Paul Sexas dans le super Moscato
Show
au surlendemain de son annonce sur le Tour de France. Donc on va tout savoir de ses ambitions. Parce que ça y est, nous on veut savoir ce qu'il va y faire. Est-ce qu'il vient pour gagner, pour avoir le maillot jaune, pour gagner des étapes?
Podium,
j'espère. On va lui demander, je sais pas moi. Ah
bah, j'espère que vous allez lui demander.
Non mais je sais pas ce qu'il va assumer. Oui. On n'en sait rien en fait. C'est ça qui est passionnant.
Duel avec Pogacar, mais c'est comme pour la
Vierge Bastogne. C'est intéressant de savoir ce que lui a en tête. Voilà. Parce que lui, peut-être qu'il va arriver en disant, mais moi je viens pour gagner.
Oui, mais attends, un grand tour comme ça avec autant d'étapes, ça il connaît pas, donc il y a ça aussi, il y a l'inconnu, la récupération, il y a tout ça quand même, quoi.
Voilà. Puis la présentation avec ses grands-parents, c'était génial.
C'était bien fait parce que c'était frais.
Ouais, voilà.
Ça faisait pas trop mis en scène. Voilà. C'était bien filmé, donc je pense que c'était quand même préparé.
Oui, mais... il a pas pris son portable, salut mamie. Oui,
non, mais la scène avait l'air spontanée.
Oui,
donc c'est pas mal. Parce que quand ça fait fake, c'est nul.
C'est vrai. Mais en tout cas. Voilà.
Est-ce qu'il a l'équipe pour gagner? C'est peut-être
a priori. Alors, pour gagner,
il parle de ses coéquipiers.
Elle n'est peut-être pas encore tout à fait faite pour gagner un tour, mais elle est très forte, son équipe. Mmh. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus, il sera bien épaulé.
Alors, évidemment, on va parler de Paul Sexas, mais l'autre événement, c'est évidemment le grand match ce soir. Oui. Donc, il y a le retour des champions entre le Bayern et Paris.
Ah. Comme c'est un événement, il y a deux débats aujourd'hui. Donc, est-ce qu'à un moment dans la partie, il faudra gérer? Ou est-ce qu'il faudra jouer comme à l'aller
pour la table? C'est du football total, quoi.
Hein? Ah tiens, on peut gérer dans des matchs de foot,
mais pas ça. La réponse n'est pas évidente.
On n'est pas sûr que ce soit oui.
Non, je ne sais pas, mais qu'on se pose la question déjà, c'est intéressant. On évolue.
Quand tu écoutes Luis Enrique, il semblerait que non.
Oui, mais il aurait préféré terminer à 5-4. À 5-2 plus que 5-4.
Selon les circonstances, on va voir. Parce qu'à un moment, il faudra fermer, subir, voilà.
Si tu mènes à 5 minutes de la fin, oui, t'as intérêt à fermer quand même,
Si tu perds d'un but, donc t'es qualifié à 5 minutes de la fin, ouais, t'as intérêt à fermer.
Ouais.
Et puis, une deuxième question, est-ce que c'est le match des gardiens? Parce que les gardiens au match aller, on sait pas s'ils étaient là,
Très bon débat, excellent. Le super Moscato Show avec Paul Sexas et toute la bande Vincent Moscato, Pierre Dorion, c'est tout de suite sur RMC. Nous, on se retrouve demain, midi 15h. Salut à tous.